Le Nouveau Monde nous a annoncé, à grand fracas de publicité, de photos et de présence de ministres, qu'il y aurait bientôt, dans la région des Gonaïves, à Pointe-la-Pierre pour être plus précis, une seconde cimenterie. Le ministre du Plan, le ministre de l'Industrie, le ministre des Finances ont solennellement fait cette déclaration à la presse et présenté les conclusions positives d'une enquête de factibilité effectuée par une entreprise d'ingénieurs conseil, la Austroplan. Cette usine, qui sera la seconde puisque le ciment d'Haïti existe dans la région de Fonds-Mambin, produira environ 600 000 tonnes de ciment par an, coûtera 100 millions de dollars, sera en copropriété puisqu'une une entreprise à capitaux internationaux assurera la gérance après la construction. Nos compatriotes Reynold Etéa, William Zurek, entre autres, avaient formé une société, la Acimex, laquelle avait engagé la Austroplan pour cette étude de factibilité. Bientôt, appel d'offres international, cahier de charges pour la concession du contrat de construction de ce complexe industriel. On parle beaucoup de décentralisation industrielle en Haïti, on parle beaucoup d'investissement, de capital étranger. Eh bien, tous ces points, avec toutes les vraies ou fausses rumeurs qui accompagnent en général ces informations officielles et ces mouvements d'argent, nous avons voulu, ici à Radio-Haïti, nous faire une idée exacte des conditions d'attribution de concessions si importantes. Et c'est pourquoi nous nous sommes trouvés en présence de M. William Zurek, l'industriel haïtien, l'ingénieur conseil M. Reiter, de nationalité autrichienne, et du jeune ministre de l'Industrie et du Commerce, le docteur Guy Baudouin, pour de plus amples informations concernant cette cimenterie de la région des Gonaïves. Mais parlons d'abord de l'entreprise Austroplan qui a été chargée des études de factibilité. Cette entreprise, c'est une entreprise autrichienne, une entreprise d'État, qui a un pédigré très important dans l'ingénierie, c'est-à-dire activité d'ingénieur conseil. Il prépare des études préliminaires techniques et économiques, des avant-projets, établissement de cahiers de charges et estimation des coûts, lancement d'appels d'offres et adjudications, surveillance technique et commerciale pendant l'exécution du projet, formation du personnel et mise en service du projet, assistance prêtée à la direction de l'exploitation. Telles sont les activités d'ingénieur conseil de cette entreprise Austroplan, qui a aussi des activités d'installations industrielles. Elle s'est intéressée à l'industrie du fer et de l'acier, au travail des métaux, aux matériaux de construction et minerais, aux exploitations forestières, au travail du bois, papier et cellulose, chimie et matières plastiques, planning et surveillance de l'exécution de tous les travaux de construction connexes à ces installations et, évidemment, l'industrie du ciment. Austroplan a eu à faire, dans le domaine de la cimenterie, des investigations en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, qui ont permis à cette entreprise autrichienne d'acquérir une certaine expérience de pays sous-développés et des problèmes qui pourraient se poser dans un pays comme le nôtre pour l'implantation d'une industrie nouvelle, l'industrie du ciment, dans la région des Gonaïves. Mais depuis cette annonce faite par des personnalités officielles, dans le public, il y a des rumeurs. On se demande pour qui, pourquoi, comment, mais surtout pour qui. Eh bien, pour faire taire ces rumeurs, pour avoir la vérité, adressons-nous donc à l'ingénieur Reiter, qui va nous expliquer ce que c'est que l'étude de factibilité qu'il a réalisée pour la cimenterie, la prochaine cimenterie de Pointe-la-Pierre.
This feasibility study is in four volumes. We did a market survey inside Haiti as well as outside in the Caribbean area. We did a geological survey of Haiti. We started with three places in Haiti: Jacmel, Port-au-Prince, and Gonaïves, where we made a geological investigation to find the raw materials for the cement factory. We then concentrated on Gonaïves, selected three areas there, namely Pointe-la-Pierre, Bois-Neuf, and Amani, where we conducted a co-drilling program to get samples for analysis. Out of these samples, we then did a technological study in the best means of manufacturing cement out of the three raw materials and to determine where is the best raw material, where is it most economic to locate the cement plant. And at the end, the fourth volume is an economic analysis to prove the economic viability of this project.
Let me translate, and the Minister of Commerce, Mr. Bauduit, will check my translation, if ever. Austroplan, nous explique son project manager, est une entreprise qui étudie la factibilité du projet d'implantation de l'usine de ciment en Haïti. Cette étude de factibilité s'est faite d'abord par une étude de marché, sur le plan local et sur le plan international, mais régional à la Caraïbe. Ensuite, une étude géologique. Austroplan a effectué des échantillonnages sur trois points déterminés du territoire, Jacmel, Port-au-Prince et la région de Gonaïve. Mais en fait, vous avez compris qu'il a aussi, Austroplan a aussi étudié dans la région de Saint-Marc, car Austroplan a mentionné Amani et Boisneuf. Et l'étang Boisneuf. Amani et l'étang Boisneuf près de Saint-Marc et Lapierre, Pointe-Lapierre près de Gonaïve. Étude géologique donc qui a permis de déterminer la composition, la richesse et les possibilités en matière première pour la fabrication du ciment. Troisième étude, une étude technologique. Une étude technologique qui a permis à Austroplan de faire la pondération entre ces trois régions et de voir quels seraient les éléments techniques optima, qui favoriseraient l'implantation de cette usine de ciment en Haïti. Et la dernière étude est une étude économique qui a été faite aussi par Austroplan et qui a permis de déterminer les coûts optima, c'est ça, les meilleurs, de cette implantation de l'usine de ciment en Haïti. Monsieur le ministre, j'ai posé la question tout à l'heure au spécialiste autrichien, M. Reiter, et il nous a très clairement répondu à propos du choix du site des Gonaïves. Et rappelons sa réponse que ce choix est a été déterminé par la richesse du gisement en matière première et aussi son volume, c'est-à-dire ses réserves pour l'avenir. Il nous a dit qu'il y avait le choix entre Gonaïve-Saint-Marc, Port-au-Prince et Jacmel. Bien. Mais j'aurais aimé demander au ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Guy Bauduit, si, selon lui, les inquiétudes flottant dans le public sont justifiées sur ce choix des Gonaïves. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être très subtilement une possibilité que ce choix ait été déterminé par d'autres considérations, M. le ministre ?
Jean, ta question, ce que tu voulais vraiment demander, c'est est-ce que le ministre Henri Bayard a influencé le choix du site du
Oui, humblement j'avoue que c'est bien ce que je voulais demander. Alors,
ma réponse est un non catégorique et je regrette bien pour les auditeurs de Gonaïve qui auraient aimé, souhaité savoir que c'est leur ministre qui leur a apporté le projet, mais le ministre Bayard n'a eu aucune influence sur le choix du site, je répète. Et M. Reiter l'a expliqué assez clairement, le choix du site a été fait selon des critères géologiques et de facilité portuaire, technique en un mot. Qui n'ont rien à voir avec
le leadership électoral du ministre Bayard.
Encore une fois, je ne pourrais pas mieux dire.
Bien, alors, venons-en à l'aspect, disons, plus technique financière. Combien va coûter l'établissement de cette cimenterie, monsieur Zurek?
L'étude de factibilité prévoit exactement la somme de 103 millions de dollars. Mais nous attendons actuellement les appels d'offres parce que nous allons recevoir effectivement 5 appels d'offres et nous sommes sûrs déjà que ces sociétés-là vont nous donner le meilleur prix possible parce qu'ils vont se concurrencer entre eux.
Le meilleur prix, la sélection d'appels d'offres ne se fait pas seulement sur la base du prix le plus bas, se fait aussi selon d'autres critères. Est-il possible, monsieur le ministre, de donner aux auditeurs un petit swell sur les conditions de sélectivité d'une entreprise?
D'abord, il y a eu les conditions techniques. Est-ce que les entreprises... C'est pour cela qu'il y a eu d'abord une présélection. On a choisi des entreprises qui pouvaient répondre, n'est-ce pas, au point de vue technique, n'est-ce pas, à des particularités de la matière première. Et comme a dit M. Reiter, au processus moderne, n'est-ce pas, de fabrication de ciment. Face à la qualité des matières premières. C'est une nuance assez technique, comme j'ai déjà dit, et que je ne maîtrise pas trop bien, mais ça a été d'abord le choix, le premier choix.
La qualité de la matière première et son
exige, et non, la qualité de la matière première exigeait une certaine technologie qui n'est pas distribuée à travers le monde, qui est toujours la propriété de certaines entreprises dans certains pays du monde,
spécialisé. La qualité de la matière première détermine une sorte de présélection des entreprises qui vont être appelées.
Oui,
voilà. Ça.
Ensuite vient la question de temps. Généralement, on pose des questions à l'entreprise. Combien de temps il vous faudra pour monter un tel projet, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ça aussi, c'est un critère de sélection. Est-ce que vous pouvez offrir un contrat de gestion? À partir de quelle date pouvez-vous commencer les travaux? Et à partir de quelle date, à quel moment allez-vous remettre la clé? Quels sera
Quels sont les délais de livraison?
Les délais de livraison et tout ça. Ensuite vient le plus important, c'est le paquet financier, c'est-à-dire les conditions de financement. À ce moment-là, durée de remboursement du prêt, taux d'intérêt et quelle partie, n'est-ce pas, quel pourcentage des coûts du projet sera financé. C'est-à-dire que allons-nous trouver du financement à 100% ou à 85% et ainsi de suite.
Oui, d'accord.
N'est-ce pas? Alors là encore, il y a des entreprises, il y a des offres des offres de 85% du financement jusqu'à 100% du financement. Je me répète un peu, mais c'est ça. Ensuite, les garanties techniques
offertes par les compagnies,
et la garantie morale, n'est-ce pas, aussi. Vraiment, les critères sont nombreux, mais en ce qui nous concerne dans ce projet, le critère principal était le financement, les conditions de financement. Période de remboursement, période de grâce, taux d'intérêt, n'est-ce pas? C'est tout. Oui.
Une question un petit peu délicate. Vous avez lancé des appels d'offres. Ces appels d'offres sont en principe libres, mais évidemment avec la contrainte de la spécialisation des compagnies en fonction de la qualité de la matière première que vous avez trouvée sur le plan géologique. Mais cette liberté des appels d'offres permet aussi à une entreprise ayant déjà son expérience haïtienne de s'introduire sur le marché, de solliciter et de vous présenter un projet. Et dans ce cas, ce que vous aviez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, concernant deux cimenteries, serait contournée par le fait que cette entreprise elle-même pourrait être qualifiée. C'est plus ça le problème.
Non, si vous avez en tête la possibilité que l'actuelle cimenterie pourrait participer à cet appel d'offres, non, il n'en est pas question du tout. Parce que la cimenterie d'Haïti produit du ciment, elle ne produit pas de la machinerie pour produire du ciment. Merci. L'appel d'offres, c'est pour l'offre de travaux de génie civil, de machines, n'est-ce pas, l'équipement pour produire du ciment.
Parfait, c'est bien clair. Justement, à ce sujet, je voulais demander au ministre du Commerce, pas dépassant le cadre de cette interview, mais complétant plutôt les informations fournies au public, qu'est-ce qui fait courir un ministre du Commerce? Qu'est-ce qui fait bouger un ministre du Commerce? Qu'est-ce qui détermine la décision d'un ministre du Commerce de se pencher sur un dossier, de l'étudier et de donner son avis pour un choix déterminé d'un groupe d'entrepreneurs, haïtiens ou étrangers, pour l'investissement en Haïti?
Jean, c'est une question vaste et ma réponse, je ne sais pas si elle pourrait être assez précise. Mais d'abord, je crois, le désir de voir avancer le pays, de nous voir sortir du sous-développement, ce mot, n'est-ce pas, dont nous casse les oreilles ces jours-ci de plus en plus, n'est-ce pas, mais de notre condition de retard économique, n'est-ce pas, quand je me suis penché sur ce projet, je dois dire que je l'ai fait corps et âme, parce que je voyais miroiter devant moi, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir du ciment dans des conditions de concurrence
valable
et saine, la possibilité d'avoir, de voir la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, de canaux d'irrigation à des coûts abordables et des coûts réalistes. Je dois dire que j'ai même regardé ce projet avec un peu de poésie. Je voyais miroiter vraiment un avenir meilleur pour le pays.
On parle beaucoup de décentralisation et ce projet rentre dans le cadre général d'une décentralisation puisqu'il installe un complexe industriel d'une grande importance dans une région, Gonaïves, qui, disons le mot, a été défavorisée par l'histoire, parce que Gonaïves est quand même le crasse-vent du Nord-Ouest. Et comment voyez-vous cette décentralisation, monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie?
La réalisation de cette décentralisation va demander beaucoup d'efforts, parce que nous n'avons pas encore les infrastructures d'accueil dans les zones où nous voulons diriger les projets, les investissements. Donc ça va demander beaucoup d'efforts, on aura beaucoup de travaux à faire, et moi particulièrement beaucoup de travail en ce sens. Naturellement, pour une cimenterie, on fera les efforts parce que l'investissement est important, le jeu vaut la chandelle.
Et la rentabilité aussi.
Et la rentabilité est garantie.
Dernière question. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité pour la première cimenterie d'intervenir dans la seconde, ce qui répondait à votre angoisse de voir diversifier les entreprises, garantissant ainsi aux consommateurs un prix équitable. Nous n'avons pas de loi antitrust en Haïti.
Malheureusement.
Et justement, c'est l'un des problèmes que confronte notre développement économique. Et je sais, écouter parfois les conversations de couloir, que le ministre du Commerce et de l'Industrie souvent s'interroge sur les résultats tangibles de l'absence de loi antitrust en Haïti. Alors
Si j'ai bien compris ta question, Jean, tu voudrais savoir quels sont les moyens dont dispose mon département pour disons, agir contre, contre les forces de trust. Tu l'as dit toi-même, nous n'avons pas de loi. Nous n'avons pas encore de loi. Et les conversations, les propos de couloir que tu as entendus, n'est-ce pas, concernant le ministre du Commerce, ne sont pas vérifiés en ce qui concerne les histoires racontées, mais en ce qui concerne mon approche a consisté jusqu'à présent à chaque fois que je rencontre un problème, n'est-ce pas, où il y a une force, enfin disons le mot de monopole, n'est-ce pas, j'appelle l'intéressé et je dis, disons que j'appelle sa personne d'abord, ensuite je fais appel à sa raison. Et on essaie de discuter, n'est-ce pas, et de raisonner sur une situation. Je peux te donner un exemple particulier, un produit sur lequel on me présente une augmentation de prix. Et au lieu de laisser traîner, de ne pas accorder ou d'accorder ou de, non, de laisser tout le monde dans les décisions, j'appelle l'intéressé, je lui dis, bah, écoutez, donnez-moi, présentez-moi un dossier justifiant cette augmentation. Et je vous l'accorde. Quelle populaire qu'elle puisse être. Parce que vous savez, les augmentations de prix sont impopulaires maintenant. Et moi, tout ce que je demande, c'est la facilité, la capacité de pouvoir justifier moi-même devant le public et devant mon gouvernement cette augmentation de prix. N'est-ce pas? Et naturellement, ceci, très souvent, les intéressés sont pris au dépourvu.
Ils se cabrent.
Non, mais d'abord, ils sont pris au dépourvu parce que dans le passé, apparemment, ceci s'est fait par simple lettre. Comme j'ai reçu l'autre jour trois lettres de trois grandes compagnies m'annonçant une augmentation de prix que je devais sanctionner, disons, par l'autorisation de mon département, comme cela se fait. Mais ils m'ont annoncé une augmentation de prix. Ils ne m'ont pas sollicité l'autorisation d'augmenter leur prix. Et à ce moment-là, moi, je réponds, mettez-moi en mesure de justifier cette augmentation face à mon public, face au public, face à mon gouvernement, je vous l'accorde. C'est-à-dire, justifiez-la d'abord à mes yeux. Parce qu'une augmentation du prix, c'est pas parce que votre matière première a augmenté, le prix de la gasoline a augmenté ou autre, n'est-ce pas, que vous pouvez simplement transmettre cette augmentation directement sur les prix aux consommateurs. C'est possible que les profits que vous réalisez peuvent absorber, sinon la totalité, au moins une partie de cette augmentation de prix. Naturellement, sachant que cet argument leur serait
avancé,
certaines de ces compagnies, au départ, vous annoncent qu'ils sont en faillite, donc ils ont besoin d'une augmentation de prix, n'est-ce pas, pour pouvoir se maintenir à flot. N'est-ce pas? Et nous savons très bien, après investigation, que ceci n'est pas toujours vrai.
En d'autres termes, de plus en plus, le département du commerce et de l'industrie sera amené à établir des structures souples, nous l'espérons, pour un encadrement du producteur ou du distributeur, de façon à permettre aux consommateurs une certaine garantie,
une certaine protection.
Oui. Encadrement signifie structure administrative. Est-ce que la charge n'est pas trop lourde?
La charge est très lourde, je ne dirais pas trop lourde parce que j'ai de l'espoir. Naturellement, je dois parler franchement, mon département a une très mauvaise réputation dans le public. Nous n'avons pas les structures capables d'analyser, des augmentations de prix et de les laisser passer ou non. C'est-à-dire qu'une augmentation de prix, puisque prix nous parlons, n'est-ce pas, en principe est censée être justifiée. Parce que ce n'est pas pour le plaisir d'augmenter les prix qu'un vendeur, qu'un propriétaire de market ou d'entreprise monte ses prix. Il y a très souvent des raisons justifiées, parfois, mais tout ce que je demande, c'est de pouvoir expliquer à mon tour au public que ceci est justifié, parce que le public ne va pas poser la question
au vendeur.
Au commerçant. Et lui ne répondra pas non plus au public. N'est-ce pas? Alors, si je suis en mesure de justifier pour le public cette augmentation, n'est-ce pas, je n'ai aucune objection à l'accorder.
Bon, alors voilà pour l'arrière-plan général du département du commerce qui a été intéressé à ce projet de cimenterie. Revenons-y pour terminer, pour conclure. Monsieur Zurek, vous serez certainement, avec votre groupe, la CIMEX, partie prenante après la remise des clés, c'est-à-dire dans le consortium final de management, si je comprends bien.
On l'espère.
Vous l'espérez, vous n'en êtes pas à 100% sûr ?
On est à 100% sûr, mais à ce moment-là, ce ne sera pas seulement la ACIMEX, ce sera la ACIMEX SAM. Mmh. Donc, parce qu'il va y avoir deux autres groupes, le groupe des étrangers et le gouvernement haïtien.
Le groupe des étrangers, ça veut dire quoi ?
Ben voilà, je voulais ajouter le groupe des étrangers. C'est un groupe de financiers, n'est-ce pas, qui viendront avec un apport financier, un apport de capital qui sera nécessaire, n'est-ce pas, au fonctionnement de l'entreprise. Soit pour réaliser le down payment initial qui sera, qui est, enfin, d'après les offres, qui variera entre
5 et 15%.
N'est-ce pas ? Il faudra trouver ce capital, 15% de 5 millions environ, et assurer les fonds de roulement de l'entreprise. Donc c'est ça le groupe étranger. C'est pas, on en a parlé, mais pas avec assez de précision. Il ne faut pas laisser planer
d'incertitudes,
mais aussi de brume, mm-hmm. n'est-ce pas, sur le projet.
Donc ce groupe d'étrangers sera sollicité pour une injection de capital couvrant 15% environ
au départ
des frais d'exploitation.
Et ensuite, du down payment.
Du down payment.
N'est-ce pas ? Et ensuite des fonds de roulement de l'entreprise.
Des fonds de roulement de l'entreprise.
Oui, oui.
Dernière question concernant le management et le côté technique d'opération. L'entreprise Austroplan nous a parlé tout à l'heure de la possibilité, d'abord de la réalité du fait qu'il faudra au début avoir un personnel qualifié étranger et que cette entreprise a soumis des projets et des conseils pour la reprise en main du management par du personnel haïtien. Comment les choses vont se faire et pendant combien de temps devra-t-on accepter cette intervention de main-d'œuvre qualifiée et d'encadrement technique étranger dans cette entreprise.
Je crois que M. Reiter a déjà répondu à la question, mm-hmm. Jean. Comment dirais-je ? Cette partie, c'est le contrat de gestion de l'entreprise, ça fait partie de l'offre. Et la période considérée est entre 3 et 5 ans. Mais M. Reiter a bien dit que même après ces 5 années, il faudra encore peut-être un ou deux cadres étrangers pour assurer le fonctionnement technique de la machinerie. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sera une cimenterie moderne. Mm-hmm. Pas nécessairement sophistiquée. I would not say it's a sophisticated operation.
No, it's not automated.
It's not automated.
It has simple controls, yes. Because it is not advantageous to build a highly automated factory here in Haiti. You want to utilize the labor you have got, and also with automation to maintain the factory you need very highly skilled electronics technicians and so on, and therefore it is not the policy to build such a sophistication into this factory.
Vous avez compris, j'espère que Monsieur Reiter de la Austroplan nous explique la philosophie qui a été à la base des conseils techniques donnés dans ce projet, dans ces conseils de factibilité. C'est qu'il ne s'agit pas pour une cimenterie établie en Haïti d'utiliser un matériel, un équipement automatique et complètement automatique. Parce que cet équipement complètement automatique réclame évidemment des techniciens en électronique très qualifiés. Et ensuite, cet équipement automatique élimine une main-d'œuvre qu'il est beaucoup plus intéressant de faire travailler en Haïti. Donc, cet équipement ne sera pas complètement automatique. La voie sera ouverte pour l'introduction de main-d'œuvre qualifiée qui sera justement entraînée au fur et à mesure que la cimenterie fonctionnera. C'est bien cela, monsieur le ministre.